Paul Arène, les œufs à la coque. Anselme estibalait, s'il avait su le grec, se fut crié « Eureka !» Mais il ne savait pas le grec, son éducation première ayant été relativement négligée. Estibalait se contenta donc de manifester sa joie par cette phrase qui, quoique en humble français, n'en est pas moins significative. « Ah, cette fois, Seb, ça y est, ta fortune est faite !» Quand il se parlait à lui-même, le brave Estivalet se donnait volontiers son petit nom. Après quoi, cueillant une pincée de sel sur la pointe de son couteau, il la considéra quelques secondes d'un air grave, puis l'égrena méthodiquement par petites saccades dans le cratère barbouillé d'or d'un œuf à la coque qu'il mangeait. L'exclamation ne nous étonna point. Estibalet nous avait habitués à ces surprises. Vous arriva-t-il, étant gamin, d'étudier à travers son corps transparent la construction intérieure de quelqu'un de ces innombrables têtards qui grouillent dans les fossés au printemps? Bien, il y a des hommes tout pareils, de qui les sensations ingénues semblent se jouer à fleur de peau. Estibalet est de ces hommes-là, et les habitués, rapins ou poètes de la modeste table d'hôte où il avait des habitudes, prenaient plaisir à l'entendre recommencer chaque jour, d'un enthousiasme toujours pittoresque et de nouveau, l'exposé de ses projets, de ses espérances. Jusqu'à ce moment, la chance l'avait peu servi, mais il conservait bon courage. Quand il y a 20 ans, j'arrivais à Paris, disait Estibalet, mon premier travail fut naturellement de monter sur les tours de Notre-Dame. Je ne sais comment vous exprimer ça, mais vu de là-haut, sous le soleil qui se couchait avec ses fumées, sa grosse voix, ses millions, ses milliards de toits, reluisant comme des écailles et qui ressemblaient à un dos énorme, hérissé d'aiguilles et de tours, Paris me fit l'effet d'une bête vivante. Que je me pensais. La voilà la tarasque, qui n'est pas en carton encore comme celle de Tarascon. Il faut la manger ou qu'elle te mange, mais nom de sort, Anselme. Comment faire pour trouver le joint, le défaut de la carapace? Et depuis 20 ans, il le cherchait, ce joint, Estibalet. Depuis 20 ans, affamé et maigre, il se promenait seul dans le ventre de la bête. Tel on se figure Jonas lorsqu'il habitait sa baleine. N'allez pas cependant vous tromper sur les ambitions d'Estibalet. Il n'aspirait pas au pouvoir et eût probablement refusé de devenir ministre. Ayant dévoré dans sa jeunesse un petit patrimoine de province, il aspirait à reconquérir, non pas lentement, ce dont sa nature ardente et chimérique le rendait incapable, mais en bloc d'un coup de génie pour étonner ses compatriotes et se prouver sa propre force, les 3 ou 4 000 francs de rente perdus. De rêve modeste, dira-t-on. Il n'y a pas de rêve modeste. Le but peut différer, mais la passion qu'on met à l'atteindre est pour tous la même. Et le brave Estibalet, s'acharnant à reconquérir ses 4 000 francs, dépensait autant d'activités fiévreuses et d'âpre énergie qu'un spéculateur juif a remué des millions. Comme il possédait un creux superbe, Estibalet se mit d'abord en tête d'entrer à l'opéra comme basse. Il suivit les cours, piocha son creux, auquel, paraît-il, quelques mètres de profondeur manquaient encore, et la profondeur obtenue demanda une audition à M. Alanzier. M. Alanzier, qu'il avait connu à Marseille, l'écouta mugir, applaudit et refusa catégoriquement de l'engager. « Oh, désolé, mon cher Anselme, mais je ne puis pas, j'ose pas, cela ferait trop de peine à Boudouresque. » Un méridional intelligent qui n'a pas réussi à s'établir, basse, a toujours pour ressource d'essayer le commerce des huiles d'olive. Et Brimbalet, Estibalet, n'y faillit pas. Il restait de ses propriétés d'autrefois un coin d'olivette entre 2 roches dont personne à aucun prix n'avait voulu. Cette olivette, justement dénommée la Lézardière, pouvait, bon an mal an, donner 20 litres d'huile au plus. Mais après arrangement pris avec un gros entrepositaire de Nice, Estibalet fut bientôt en mesure de faire face aux plus importantes commandes et arriva même à se persuader que 4 maigres pieds d'olivier sur lesquels 4 cigales n'auraient pas trouvé à vivre fourniraient assez d'huile pour en inonder tout Paris. Anselme Estibalet se mit donc à vendre de l'huile. En vendant, à en céder. Un propriétaire ne vend pas son huile, il la cède, moyennant finance, aux gens qui lui sont recommandés. « Ah, c'est vous, monsieur Estibalet, j'ai reçu une circulaire. Il paraît que vous voudriez me vendre. » « Non, vendre n'est pas le mot, j'ai seulement un peu d'huile de reste. La récolte ayant donné cette année, j'en céderai volontiers quelques estagnons pour vous faire plaisir. » Par malheur, l'huile de la Lézardière avait goût de fruits, et le Parisien s'obstine à n'aimer que des huiles épurées, insipides par conséquent. Estibalet, la mort dans l'âme, renonça. Il ne pouvait pas, en vendant de l'huile épurée, de l'huile ayant perdu son goût de fruits, trahir la cause du midi et déshonorer à tout jamais ces vieux oliviers dont les troncs rugueux, percés de cavernes, datent, dit-on, de la domination romaine. Ces 2 déconvenus, suivis d'un certain nombre d'autres, n'avaient pas laissé que de rabattre un peu les belles ardeurs d'Estibalet. Mais cette fois, ça y était. Le défaut de la cuirasse trouvé, la Tarasque et Paris sûrs de leur affaire. « Vous voyez cet œuf ?» s'écriait Estibalet de l'air triomphant des grands inventeurs. « Vous voyez cet œuf, il est petit ?» Eh bien, avant 3 mois, j'en aurais fait sortir des charretées et des culs. Comment allait-il s'y prendre? Quelle était son idée? Il ne l'expliqua que plus tard. Mais pour ne pas vous faire languir, je vais anticiper sur les événements et vous révéler tout de suite le secret de sa découverte. Gourmand comme on l'est dans nos pays, Anselme Estibalet était particulièrement grand amateur d'œufs à la coque. Il estimait l'œuf à la coque une nourriture idéale et le plus précieux présent que la nature nous ait octroyé. Malheureusement, soit ignorance, soit paresse, l'homme d'après lui avait jusqu'à nos jours négligé de perfectionner ce présent. L'homme cultive les fruits et les légumes et ne s'occupe pas des œufs. Depuis la création du monde, nous en sommes toujours à l'œuf sauvage et pourtant même pour l'œuf, il y aurait quelque chose à faire. Remarquez, continuait Estibalet, quel ennui c'est que de saler un œuf à la coque, de le saler exactement juste à son point. Le sel dont on le saupoudre ne pénètre ni ne se dissout, il s'attache en grumeaux au bout de la mouillette. Ceci est trop âcre, le reste trop fade, on recommence, on s'impatiente, et l'on se fait une torture de ce qui pourrait et devrait être le plus béatement gastronomique des plaisirs. Et tout de suite, avec cette rapidité de conception qui caractérise le génie, Anselme Estibalet avait entrevu les grandes lignes de son système. Ne pouvait-on pas, grâce à une nourriture spéciale et savamment choisie, amener les poules pondeuses à produire des œufs qui seraient salés? Toute la difficulté était là, nullement insurmontable, car la sélection, Dieu merci, a fait de bien d'autres miracles. Estibalet chercha, consultant à la fois la nature et les livres, ne quittant la bibliothèque que pour aller courir les basses-cours des fermes, interrogeant les nourrisseurs, observant la volaille. Puis quand il crut avoir trouvé, il nous fit ses adieux et partit pour la Lézardière avec un formidable attirail de fours à éclosion et de couveuses mécaniques. On n'avait plus de ses nouvelles quand le hasard du voyage me conduisit du côté de chez lui il y a quelques mois. Je grimpai à la Lézardière. Estibalet me reçut avec un débordement d'amitié. « Oh, c'est fini, dans 8 jours je lance 300 000 frais sur Paris. » J'accapare les chemins de fer, j'encombre les halles. Estibalet avait les traités signés et les principaux courtiers se disputaient par avance sa marchandise. Il me montra des centaines de paniers tout prêts, portant en lettres d'or, sur fond bleu, cette flamboyante étiquette « Appel aux gourmets, demandez partout l'œuf à la coque Estibalet, salé naturellement. » Et il ajoutait « Nous avons un second avantage à cause du sel, mes œufs salés se conservent frais tant qu'on veut. » Puis je dus visiter le poulailler et constater les nombreux changements apportés par Estibalet à sa cassine de la Zélardière. Oh, ce poulailler! En vue de la mer bleue, bon, il paraît que l'air salin faisait partie du régime. Derrière une grille en fil de fer, sous le feuillage grêle de quatre oliviers tamisant le soleil comme un crible, quelques poules se promenaient, mélancoliques, l'œil éteint, la plume malade, et si obsidianalement décharnées que je songeais tout de suite à la centenaire et fantomatique poule au pot sur laquelle Théodore de Banville a écrit un merveilleux poème de 50 vers qui vaut à lui seul une épopée. Mais de quelles infernales drogues Estibalet nourrissait-il donc ses poules? Inquiet, je lui demandais. Au moins elles pondent. Pas des œufs superbes, nous allons en juger à table. À table, on nous servit des œufs à la coque et des mouillettes. Anselme rayonnait, m'observant. Hein, quel goût de sel! Comme c'est compris, mesuré! Oh, j'ai eu du mal à trouver la dose! Il se régalait, le brave homme, trouvant ses œufs salés, sans doute par imagination. Et moi, pour ne pas l'endolorir, j'essayais de les avaler sans grimace. Car la vérité m'oblige à dire qu'il n'était pas salé du tout.